l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Quatrième épisode.
Où s'achève l'incroyable bataille qui opposa le courageux Biscayen et le vaillant chevalier de la Manche, et de sa fâcheuse rencontre avec une bande de muletiers. Nous avons laissé le valeureux Biscayen et l'illustre Don Quichotte, les épées hautes et nues, chacun s'apprêtant à asséner à l'autre un terrible coup de taille, qui, s'il atteignait son but, allait pour le moins fendre l'adversaire de haut en bas et l'ouvrir comme une grenade. Le récit s'est alors interrompu, tronquant cet épisode si plaisant à un moment décisif. Voici comment, d'après la traduction des feuillets écrits par Sidi Ahmed Benengeli, débute la suite du récit de Don Quichotte. Voir ainsi, à nu et haut levé, les épées tranchantes de ces vaillants et furieux guerriers, à voir leur hardiesse et leur résolution, on aurait dit qu'ils menaçaient tout à la fois le ciel, la terre et l'enfer. Le premier coup fut porté par le Biscayen rageur, et il l'asséna avec tant de force et de fougue que si l'épée, en atteignant son but, ne lui avait pas tourné dans la main, ce seul coup aurait mis fin au combat, ainsi qu'à toutes les aventures de Don Quichotte. Mais la bonne étoile de notre chevalier, qui le réservait pour de plus grands exploits, détourna l'épée, et bien que le frappant durement à l'épaule gauche, elle ne fit que lui désarmer tout ce côté-là, emportant en chemin une bonne partie de la visière et une moitié de l'oreille. Le tout tomba sur le sol avec un bruit épouvantable, laissant Don Quichotte fort mal en point. Dieu me pardonne. Qui pourra jamais décrire la fureur qui s'empara de notre chevalier quand il se vit arrangé de la sorte? Disons par souci de simplicité qu'il se redressa sur ses étriers et, serrant son épée à deux mains, frappa un tel coup sur le coussin, dont l'autre s'était fait un bouclier, et la tête de son adversaire que le Biscayen, malgré l'excellence de sa protection et comme si une montagne lui était tombée dessus, se mit à saigner par le nez, par la bouche, par les oreilles, et aurait dégringolé de sa mule s'il ne s'était fermement accroché à son cou. Mais ses pieds quittèrent bientôt les étriers, ses bras desserrèrent leur étreinte, et la bête, effrayée par ce choc terrible, s'élança à travers champs, et après quelques cabrioles, se débarrassa de son cavalier.
« Rends-toi donc, canaille! Si tu ne veux pas que sur le champ, je te tranche la tête à l'aide de cette épée !»«
Monsieur le chevalier, je vous en supplie, daignez accorder la vie sauve à mon écuyer !»
« Assurément, gentille dame, je consens à votre demande. J'y mets cependant une condition, c'est que ce chevalier me promette d'aller au Toboso pour se présenter de ma part devant l'incomparable Dulcinée, afin qu'elle dispose de lui selon son bon plaisir. »«
Je vous promets qu'il fera tout ce qu'on lui ordonnera. »«
Sur la foi de cette parole, je ne lui ferai aucun mal. »« Quoiqu'il l'ait bien mérité. »
Voyant la bataille terminée et Don Quichotte prêt à remonter sur son cheval, Sancho Panza, que les valets des moines avaient quelque peu maltraité, courut vers lui.
J'espère, monsieur mon maître, que vous allez me donner le gouvernement de l'archipel que vous venez de gagner dans cette bataille. Même s'il est très grand, je me sens de taille à le gouverner aussi bien, sinon mieux, que n'importe quel autre gouverneur d'archipel.
Apprends, Sancho, que dans ces aventures de grand chemin, on ne reçoit point d'archipel. Et on y gagne de se faire casser la tête ou d'avoir une oreille en moins. Mais prends patience. Il s'en présentera d'autres où je t'élèverai une dignité encore plus haute que celle de gouverneur.
Grand merci, monsieur. Attendez-moi, monsieur, vous allez trop vite.
«
traînard tu fais donc, Sancho?
Il me semble, monsieur, que nous ferions mieux de trouver une église où nous abriter. Vous avez tellement bien arrangé votre adversaire que je ne serais pas étonné si la Sainte Hermanda nous tombe dessus dès qu'elle l'apprendra. Et une fois qu'on nous aura mis en prison, il nous faudra suer sang et eau pour en sortir.
Tu n'y connais rien. Où as-tu jamais lu ni entendu qu'un chevalier errant ait été traduit devant la justice, quand bien même il aurait commis nombre d'homicides?
Je n'ai jamais reniflé de près un homme acide, mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui se battent en duel dans les campagnes ont affaire à la Sainte Hermandad. Pour le reste, je vous fais confiance.
Sois sans crainte, je te tirerai des mains des Philistins s'il le fallait, et à plus forte raison de celle de l'Hermandad. Mais dis-moi, connais-tu chevalier plus vaillant que ton maître sur toute la surface de la terre? En as-tu jamais vu dans les livres qui ait plus d'audace à attaquer son ennemi, plus d'intrépidité à le combattre, plus d'adresse à le frapper, plus d'obstination à le renverser?
La vérité, monsieur, c'est que je n'ai jamais lu aucun livre, parce que je ne sais ni lire ni écrire. Mais ce que je pourrais jurer, c'est que je n'ai jamais servi un maître plus courageux que vous de toute ma vie.
Ah.
Il plaise à Dieu que ce courage ne nous mène pas où je crains. En attendant, laissez-moi vous soigner l'oreille, vous perdez beaucoup de sang. J'ai justement de la charpie et du baume blanc dans le bissac.
Oh, si seulement j'avais pensé à remplir une fiole avec de l'élixir de Fierabra, il aurait suffi d'une goutte pour nous épargner du temps et des remèdes.
Quelle fiole? Quel élixir?
Un élixir dont j'ai gardé la recette en mémoire. Quiconque l'a en sa possession n'a plus à redouter la mort, ni à craindre de succomber à aucune blessure. Quand j'en aurai fait, je t'en donnerai. Si tu vois, au cours d'une bataille, qu'on m'a coupé le corps en deux, ce qui arrive fréquemment, il te suffira de ramasser, sans qu'on s'en aperçoive, la partie tombée à terre et, délicatement, avant que le sang ne se fige, de la replacer sur l'autre moitié restée en selle, en faisant en sorte qu'elles soient parfaitement ajustées l'une à l'autre. Ensuite, tu me donneras à boire 2 gorgées seulement de cette potion et tu me reverras aussitôt frais comme un gardon.
Si ce que vous dites est vrai, je renonce dès maintenant à l'archipel que vous m'avez promis. Et en récompense de mes bons et nombreux services, je ne demande pas autre chose que la recette de cette précieuse liqueur. Je parie que je pourrais la vendre au moins 2 réaux l'once, où que ce soit. Ça me permettra de vivre tranquillement et sans m'en faire. Reste à savoir si elle est très chère à fabriquer.
Pour 3 réaux à peine, on peut en faire 6 bonnes pintes.
Miséricorde. Mais qu'est-ce que vous attendez, monsieur, pour la préparer et m'en donner la recette?
Calme-toi, Sancho. Je t'apprendrai bien d'autres secrets et je te réserve de bien plus grandes faveurs. Pour l'instant, regarde si tu as quelque chose à manger dans ton bissac. Nous irons ensuite à la recherche d'un château où loger cette nuit et préparer cet élixir dont je t'ai parlé. Car je te jure par Dieu que mon oreille me fait très mal.
J'ai là un oignon, un morceau de fromage et quelques vieux quignons. Mais ce n'est peut-être pas une nourriture digne d'un chevalier aussi brave que vous.
Décidément, tu n'y entends rien. Apprends, Sancho, qu'un chevalier errant s'honore de ne rien manger de tout un mois. Mais quand il mange, il pense qu'il lui tombe sous la main. Tu n'en douterais pas si tu connaissais autant de livres que j'en ai lus. Nulle part, je n'ai trouvé mention des repas que faisaient les chevaliers errants. Ou alors, tout à fait par hasard, lorsqu'ils étaient conviés à de somptueux banquets. Le reste du temps, il se satisfaisait de bien peu de choses. Aussi, Sancho, ne t'afflige point de ce qui me fait plaisir. Et ne prétends pas changer le monde, ni transformer les lois de la chevalerie errante.
Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne connais rien au règlement de cette profession de chevalier. Désormais, j'aurai toujours dans mon bissac toutes sortes de fruits secs pour vous, qui êtes un chevalier. Et pour moi qui ne suis pas, j'y mettrai de la volaille et autres mets plus substantiels.
Je n'ai pas dit, Sancho, que les chevaliers errants ne doivent manger que ces fruits dont tu parles, mais que c'était leur nourriture habituelle.
Sancho sortit de son bissac tout ce qu'il avait annoncé et qu'ils mangèrent de bon appétit. Cependant, le désir de trouver où loger pour la nuit leur fit abréger ce repas. Ils remontèrent aussitôt à cheval et se hâtèrent de gagner un village avant la tombée du jour. Ils arrivaient près d'une cabane de chevriers quand le soleil disparut, et avec lui, tout espoir d'atteindre leur but. Ils décidèrent de s'y arrêter. Don Quichotte reçut bon accueil des chevriers, qui bientôt étalèrent sur le sol des peaux de moutons et dressèrent rapidement leur table rustique.
Venez donc partager avec nous nos provisions.
Tenez, monsieur, asseyez-vous sur cette auge. Vous serez bien mieux.
Je vous remercie pour cet insigne honneur, mes amis. Afin que tu reconnaisses, Sancho, l'excellence de la chevalerie errante, et sache que ceux qui appartiennent à cet ordre, à quelque grade que ce soit, ne peuvent manquer de mériter rapidement la considération et le respect, je veux que tu t'assoies à mes côtés, en compagnie de ces braves gens, et que tu ne fasses qu'un avec moi, moi qui suis ton seigneur et maître, que tu manges dans mon plat et que tu boives de ce que je boirai. Car on peut dire de la chevalerie errante comme de l'amour qu'elle nous rend tous égaux.
Grand merci. Mais je dois vous avouer, monsieur, que moi, du moment que j'ai de quoi manger, j'aime autant manger debout en prenant mes aises qu'assis à côté d'un empereur. Et pour tout vous dire, je préfère un bout de pain et un oignon que je mangerai dans mon coin sans faire de manière à toutes les dindes et autres volatiles qu'on pourra me servir à une table où je serai obligé de mâcher lentement. De boire à petits coups, de m'essuyer à chaque instant sans pouvoir éternuer ou tousser s'il m'en vient l'envie, ni faire d'autres choses qu'on peut se permettre dans la solitude et la liberté. Je suis très flatté de l'honneur que vous me faites, monsieur, mais j'y renonce dès à présent et jusqu'à la fin du monde.
Cela ne doit pas t'empêcher de t'asseoir à côté de moi. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Allons, Sancho, assieds-toi à présent, je te l'ordonne.
Les chevriers ne comprenaient rien à ce jargon et se contentaient de manger sans dire mot en regardant leurs hôtes, qui, avec bonne humeur et appétit, engloutissaient des morceaux gros comme le poing. Quand toute la viande fut terminée, ils étalèrent sur les pots un gros tas de blanc et une moitié de fromage plus dur que du mortier. Quand Don Quichotte eut pleinement satisfait son estomac, il prit une poignée de gland et les considéra avec attention.
Et voilà.
Heureuse époque, siècle béni que les anciens ont nommé l'âge d'or. En ces temps merveilleux, tout était commun à tous. Pour trouver sa nourriture, il suffisait à l'homme de lever la main pour cueillir le fruit doux et savoureux que le chêne robuste lui tendait gracieusement. Tout n'était que paix, harmonie et concorde. Alors, les chastes et jolies bergères s'en allaient de vallée en vallée et de colline en colline, cheveux au vent, juste assez vêtus pour couvrir ce que la pudeur exige que l'on tienne couvert. Alors, les sentiments amoureux s'exprimaient aussi simplement que l'âme les avait conçus. Les jeunes filles et l'innocence marchaient de compagnie, la tête haute, sans avoir à redouter les assauts de l'effronté ni l'audace du lascif. Dans ces temps détestables où nous vivons, aucune n'est plus en sûreté, fût-elle enfermée dans un nouveau labyrinthe de crête. C'est pour les protéger contre la méchanceté sans cesse croissante de l'homme qu'on a institué l'ordre des chevaliers errants, défenseurs des jeunes filles. Protecteur des veuves, secours des orphelins, soutien des humiliés. C'est à cet ordre que j'appartiens, mes chers amis. Et je vous remercie du bon accueil que vous nous faites à moi et à mon écuyer. Il est juste que tous ceux qui vivent sur la terre aient l'obligation d'assister les chevaliers errants. Mais vous, ignorant à qui vous aviez affaire, m'avez cependant si bien reçu que je me dois à mon tour de vous témoigner ma gratitude.
Don Quichotte avait été plus long à parler que le repas à s'achever. Les chevriers l'avaient écouté sans dire un mot. Bouche bée.
Il me semble, monsieur, que le moment est venu de choisir un endroit où passer la nuit.
Et Sancho pressa son maître d'entrer dans la cabane des chevriers, où ce dernier put dormir à son aise, tandis que lui passa la nuit commodément installé entre Rocinante et son baudet. Le lendemain, Don Quichotte dit adieu à ses hôtes. Le sage Sidi Ahmed Benengeli raconte qu'il s'enfonça en compagnie de Sancho dans le bois environnant et qu'après avoir cheminé quelque temps, ils débouchèrent sur une prairie couverte d'herbes tendres et traversée par un ruisseau frais et paisible.
Arrêtons-nous ici, Sancho. Voici l'endroit idéal pour faire une pause et nous rassasier.
Ils laissèrent l'âne et Rocinante paître à leur guise l'herbe abondante. Mais le sort voulut que des muletiers choisissent le même endroit que Don Quichotte pour y faire un somme et donner herbe et eau à leur troupeau. Tout à coup, il vint à Rocinante le désir de folâtrer avec ses dames mules. Mais elles avaient, semble-t-il, plus envie de paître que d'autre chose. Et ils le reçurent à coups de fer et de dents, si bien que très vite les sangles de Rocinante cassèrent et qu'il se retrouva sans selle, tout nu. Pis encore, voyant qu'on voulait abuser de leur bête, les muletiers accoururent armés d'épieux et ils lui donnèrent une telle correction qu'ils l'étendirent par terre.
Sancho, à ce que je vois, ces gens-là ne sont pas des chevaliers, mais de vulgaires coquins. Aussi, vas-tu m'aider cette fois à venger l'affront que sous nos yeux ils ont infligé à mon cheval.
Nous venger de ces gens-là? Quand ils sont plus de 20 et nous ne sommes que 2? Et encore, je devrais dire plutôt 1,5? Non, pas question.
J'en vaux 100 à moi seul. À l'attaque!
Je vous suis, monsieur.
Dans son élan, Don Quichotte atteignit l'un des muletiers. Et d'un coup de lame fendit la peau de bête dont il était vêtu et aussi une bonne partie du dos. Les autres, enhardis par leur nombre, attrapèrent leurs bâtons, les encerclèrent et firent pleuvoir sur eux une volée de coups. À dire vrai, au deuxième, Sancho était déjà par terre où Don Quichotte, malgré son adresse et son allant, le rejoignit bientôt. S'étant ainsi dédommagé, les muletiers chargèrent leurs bêtes aussi vite qu'ils purent et reprirent la route, laissant nos deux aventuriers en bien mauvais état.
Monsieur Don Quichotte.
Oui.
Oh, Monsieur Don Quichotte.
Que veux-tu, Sancho?
Que vous me donniez à boire une petite gorgée de la potion de Fierabras, si vous en avez. Peut-être qu'elle est aussi bonne pour les os brisés que pour les blessures.
Tu sais bien que je n'en ai pas. Et si seulement je l'avais, pauvre de moi, nous n'en serions pas là. Mais c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû me battre contre des hommes qui n'ont pas été armés chevaliers. Et sans doute le dieu de la guerre m'a-t-il puni pour avoir enfreint les lois de la chevalerie.
Tâchez de vous lever, monsieur. Ensuite, nous aiderons Rocinante qui ne le mérite pas, car c'est lui le principal responsable de cette frottée. Cette fois, je crains que tous les cataplasmes d'un hôpital ne suffisent pas à nous remettre d'aplomb.
Allons, Sancho. Fais un effort comme je le fais moi-même. Et voyons plutôt comment se porte Rocinante. Cette pauvre bête me paraît avoir eu sa part dans cette mésaventure.
C'est bien normal. Lui aussi est membre de la chevalerie errante. Et ce qui m'étonne, c'est que mon Baudet s'en soit si bien tiré alors qu'il ne nous reste plus une côte intacte.
La fortune ne ferme pas toutes les portes à la fois. Ainsi, cette brave bête pourra remplacer Rocinante et me conduire dans quelques châteaux où je pourrais me faire panser. Allons, Sancho, essaie donc de te lever et mets-moi sur ton âne. Il faut partir d'ici avant que la nuit ne nous surprenne dans ce lieu désert.
Après avoir poussé au moins 30 gémissements et 60 soupirs, et lancé près de 120 jurons et blasphèmes à l'adresse de celui qui l'avait entraîné là, Sancho Panza se redressa, alla chercher son âne et lui mit le bât. Ensuite, il vint relever Rocinante, qui, s'il avait eu une langue pour se plaindre, n'aurait rien eu à envier à Sancho et à son maître. Enfin, il installa Don Quichotte sur l'âne, attacha Rocinante à la queue de son baudet qu'il prit par le licol, et se dirigea du côté où, selon lui, devait passer la grande route. Il découvrit bientôt une auberge.
La chance nous est favorable, Sancho. Voici un château où je vais pouvoir soigner mes blessures.
Vous vous trompez, monsieur, c'est une auberge.
C'est toi qui te trompes, Sancho. Ceci est un château.
La discussion durait encore lorsqu'ils arrivèrent devant le portail, sous lequel Sancho s'engouffra avec toute sa troupe, sans se poser plus de questions.
Soyez les bienvenus chez nous, messieurs. Mais... qu'arrive-t-il à cet homme?
Oh, ce n'est rien. Mon maître a roulé du haut d'un rocher et s'est un peu abîmé les côtes, voilà tout.
Il m'a l'air bien mal en point. Nous allons panser ce pauvre homme. Marie Thorne, venez nous aider!
La dite Marie Thorne était une servante asturienne, grosse de traits, courte de cou, le nez écrasé, borgne d'un œil et guère mieux lotie de l'autre. Cette gracieuse servante va assister la femme et la fille de l'aubergiste, une jeune demoiselle fort avenante. Elles dressèrent pour leur hôte un mauvais lit dans un galetas qui, de toute évidence, avait servi pendant longtemps de grenier à foin. Après l'avoir couché, les trois femmes s'empressèrent de couvrir Don Quichotte d'emplâtre de haut en bas.
Ça ressemble plus à une volée de coups qu'à une chute.
Ce ne sont pas des coups. C'est que le rocher avait des pointes et des becs et que chacun a laissé sa marque. Et si vous pouviez vous arranger, madame, pour mettre de côté quelques morceaux d'étoupe, ils ne seront pas de reste vu l'état dans lequel j'ai moi-même la peau du dos.
Ah, vous êtes donc tombé aussi?
Non, non. Mais j'ai eu tellement peur en voyant tomber mon maître Don Quichotte que j'en ai le corps rompu. Comme si j'avais reçu moi-même 1000 coups de bâton.
Comment vous dites qu'il s'appelle?
Don Quichotte de la Manche. Il est chevalier d'aventure. Et parmi les meilleurs et les plus braves qu'on ait vus depuis longtemps.
Qu'est-ce que c'est un chevalier d'aventure?
Vous devez être bien neuf en ce monde pour poser une question pareille. Sachez, bel enfant, qu'un chevalier d'aventure, c'est quelque chose qui, en un rien de temps, peut être roué de coups et puis devenir empereur. Aujourd'hui, il est l'homme le plus infortuné de la terre et le plus malheureux. Mais demain, demain, il aura aussi bien deux ou trois royaumes à offrir à son écuyer.
Et comment il se fait qu'étant écuyer d'un si noble maître, vous n'avez pas encore, à ce qu'il semble, obtenu au moins un comté?
Laissez-nous le temps. Il y a à peine un mois que nous avons commencé à chercher des aventures. Jusqu'à présent, ça n'a rien donné.
Ah, noble dame, c'est un honneur pour vous d'accueillir en votre château mon insigne personne, dont je ne vous ferai point l'éloge, car il est bien connu qu'on s'avilie en se louant soi-même. Je laisse donc le soin à mon écuyer de vous apprendre qui je suis. Quant à moi, je dirais seulement que je conserverai à jamais gravé dans ma mémoire la faveur que vous daignez me faire, dont je vous serai reconnaissant jusqu'au dernier jour de ma vie.
L'hôtelière, sa fille et la brave Marie Thorne écoutaient ébahies le discours du chevalier errant, qu'elle ne comprenait pas plus que si c'était de l'hébreu, et le regardaient avec de grands yeux comme un homme d'une espèce inconnue. Après l'avoir remercié de ses politesses dans leur langage à elle, la femme de l'aubergiste et sa fille le quittèrent, tandis que Marie Thorne s'occupait de panser Sancho, qui en avait au moins autant besoin que son maître.
À suivre.
L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Un feuilleton adapté par Juliette Eman.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Et publié aux éditions du Seuil.
Conseillère littéraire, Catel Guillot.
Quatrième épisode.
Avec
Daniel Koenigsberg,
Bernard Ménez,
Laurent Ferraro,
Jean-Baptiste Artigas,
Christelle Sevcou,
Ismaël Ruggiero,
Philippe Bertin,
Nathalie Serda,
Marie Mosser
et Julie Pilot.
Musique originale, Sébastien Schuller.
Bruitage, Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage,
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossire.